Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Retrouvons encore au XIXe siècle pour aborder ce volet sur les femmes artistes, artistes femmes au cours des siècles. La dernière émission était consacrée aux femmes sculpteurs et je disais qu'elles n'ont jamais été aussi nombreuses ou dénombrées qu'au XIXe siècle, malgré la rugosité salissante de la pratique, peu compatible avec l'image stéréotypée et attendue par la société de la femme occidentale de ces époques. Alors, la plupart des femmes ont cherché à s'affirmer dans des matières jusque-là dévolues aux hommes, encouragées par leur succès, et elles l'ont fait souvent à coup de prises de position féministes, lesquelles féministes revendiquaient les droits, notamment celui de disposer d'elles-mêmes et de faire ce qu'elles jugeaient bon pour elles sans l'avis d'un censeur. Alors notre voyage dans le temps nous a amenés à la première moitié du XIXe siècle. Nous avons rencontré sur notre chemin bien des sculptrices françaises, puis une Suisse surnommée Marcello, et nous nous apprêtions à rencontrer des Américaines. Alors à la fin de la dernière émission, je disais que la sculpture bénéficiait d'un engouement certain de la part des Américains, mais aussi des Américaines bien décidées à se confronter à la matière brute pour réaliser leurs objectifs et devenir des sculptrices accomplies. Et nous verrons que ce fut le cas pour une grande majorité d'entre elles, dont on retrouve des œuvres, même monumentales, disséminées un peu partout aux États-Unis, quand ce n'est pas en Europe. Alors, les pionnières ont été un groupe de femmes que l'écrivain américain Henry James a baptisé un peu ironiquement The White Marmorean, qui signifie le blanc troupeau de marbre ou le troupeau blanc marmoréen, hein, au choix. Ce petit groupe s'est retrouvé à Rome, en Italie, bien décidé à prendre ce qui sera leur future activité professionnelle. Alors l'une d'elles, un précurseur, se nomme Harriet Hosmer. Elle est née en 1830 et est partie à Rome pour étudier avec le sculpteur britannique John Gibson. Elle répondra à des commandes en se spécialisant dans la représentation de femmes historiques ou mythologiques. Par exemple, sa sculpture en marbre intitulée « Zenobra, reine de Palmyre ». Alors une autre, nommée Edmonia Lewis, est une afro-américaine qui réalisera des œuvres plutôt néoclassiques. Et sa particularité sera de mélanger les influences dont elle-même est issue et aborder des thèmes en lien avec ses origines afro-américaines et sa culture amérindienne. Et elle sera la première femme de couleur à atteindre une reconnaissance internationale. Alors Emma Stebbins ou Stebbins est une autre de ces femmes. Elle est leur aînée parce qu'elle est née en 1815. Elle concevra une pièce majeure à Rome, il s'agit de sa statue intitulée « L'ange des eaux » qui trône toujours au sommet de la fontaine de Bethesda au parc central de Manhattan. Et c'est la première œuvre d'art public réalisée par une femme de New York. Alors Anne Whitney également, qui est à la fois sculptrice et poète, elle a surtout réalisé des sculptures de personnalités politiques, historiques, que l'on peut trouver maintenant dans de nombreux musées aux États-Unis. Elle s'est surtout distinguée par son intérêt pour les problèmes sociaux de son époque, l'esclavage, le droit des femmes, entre autres. Et bon, je citerai encore Vinnie Rim Oxy, qui fut désignée par le gouvernement des États-Unis pour réaliser le mouvement à Lincoln, qui se situe dans la rotonde du Capitole de Washington. Alors elle n'avait que 18 ans. Et c'était, paraît-il, une femme brillante qui fut déjà un enfant prodige. Et elle a été remarquée par un sculpteur, Benjamin Paul Akers, chez qui elle s'était initiée au modelage, et celui-ci avait décelé ses belles dispositions. Alors, quel fut son parcours? Il est dit qu'elle était très active, hein, ne s'arrêtant pas. Il n'est pas étonnant qu'elle se fût mise au travail à l'âge de 15 ans en étant embauchée comme employée de bureau au moment des bouleversements que créait la guerre de sécession aux États-Unis. Et toujours aussi active, ben, elle s'est ensuite portée volontaire pour écrire aux soldats blessés dans les hôpitaux et dans la foulée s'est transformée pour eux en chanteuse. Et c'est à 16 ans qu'elle a eu une révélation en accompagnant un membre du congrès du Missouri qui voulait demander au sculpteur Clark Mills de réaliser une sculpture pour une école. Et en le regardant travailler, elle lui aurait dit ben, qu'elle pouvait aussi le faire. Et Clark Mills l'aurait pris au mot en la laissant modeler et c'est là qu'il se serait rendu compte de son talent. Ensuite, elle serait devenue son apprentie jusqu'à parvenir à se distinguer pour qu'à 18 ans, suite à un concours, le gouvernement la désigne et lui confie le travail de sculpter la statue de Lincoln en taille réelle. Alors elle s'en acquittera fort bien, apparemment, hein, il faudrait le vérifier à Washington. Si bien que de fil en aiguille, ben, elle réalisera d'autres belles pièces et entre autres une statue d'un Amérindien, un séquoia, qui a été placée dans le Statuary Hall du Capitole. Et il est dit de surcroît qu'elle fut la première femme, la plus jeune, à obtenir la commande d'une œuvre d'art par le gouvernement des États-Unis. Alors je citerai encore Louisa Lander, née en 1826, aussi un membre de ses expatriées américaines échouées à Rome. Elle sculptera surtout des personnalités historiques et mythologiques. Alors elle est née dans une famille d'artistes et de marins, plutôt argentés. Elle s'initie très tôt à la sculpture et aussi s'est déjà aguerrie qu'elle arrive à Rome pour se mêler au groupe afin d'étudier et de travailler. Alors elle sera l'assistante d'un sculpteur, Thomas Crawford, avant de se lancer en solo. Bon, apparemment sa carrière a été compromise, suite d'abord à des rumeurs calomnieuses, hein, dont la teneur n'est pas très claire, mais qui seraient plus ou moins en lien avec sa relation à l'écrivain Nathaniel Hawthorne. Enfin, quoi qu'il en soit, elle est ensuite victime d'une série de déconvenues, arrêts de commande, exclusions, pertes d'œuvres. Et à la suite de toutes ces avanies, ben, elle n'a pu relancer sa carrière et est morte finalement sans faire de bruit et donc quasi oubliée. Alors on a gardé d'elle une sculpture grandeur nature d'un personnage, d'une femme nommée Virginia Daré, qui aurait mystérieusement disparu avec ses parents. Et sa disparition alimente le mystère qui entoure une colonie d'expatriés anglais en Amérique que les Américains appellent la colonie perdue de l'île Roanoke en Caroline du Sud. Du Nord ! Pourquoi je dis Sud ? Je m'en mêle là, je fatigue. Alors l'existence de Louisa Lander semble participer à un jeu d'apparition-disparition. Hein. Elle disparaît de la scène artistique et se fait oublier en faisant apparaître une disparue que l'on aurait oubliée si sa statue n'avait pas été érigée entre-temps. Bon, voilà ce que mes observations font naître dans mon esprit. Bien, ben, nous allons faire une petite pause musicale. Je crois qu'il est temps pour moi. L'émission précédente, je vous ai fait écouter Clara Schumann, qui, comme son mari Robert Schumann, était une compositrice du 19e siècle. Elle fait partie de ces femmes dont le talent a été minoré, mais je vous ai conté son histoire la fois dernière. Et je vous propose aujourd'hui de Clara Schumann, La Romance, opus 28, numéro 2. J'espère que vous avez apprécié le romantisme nostalgique de cette belle musique composée par Clara Schumann. Alors revenons à nos sculptrices américaines. Parmi ces femmes, je vous présente également Margaret Foley. Son style artistique est aussi néoclassique. Elle s'est surtout distinguée dans la réalisation de petites pièces, des médaillons, des sculptures de camée. Alors, elle est issue d'un milieu très modeste, pauvre, son père étant ouvrier agricole. Elle-même a commencé jeune à faire des ménages pour pouvoir s'offrir l'école, ce qui ne l'a pas empêchée de s'intéresser à la sculpture, de devenir enseignante, de continuer ses études artistiques pour enfin être reconnue pour son travail. Alors, elle aussi est partie à Rome, elle a reçu également de nombreuses commandes de personnalités. Et c'est une maladie neurologique qui l'arracha à l'existence à l'âge de 50 ans. Or, j'ai rencontré une Florence Freeman, née en 1836, qui dans sa courte vie, puisqu'elle est décédée à 40 ans, a quand même produit une œuvre conséquente. Or, son cursus est globalement identique aux autres. Elle a étudié avec des sculpteurs accomplis, a voyagé en Italie, à Florence, où elle a continué d'étudier. Puis ensuite s'est installée à l'âge de 25 ans à Rome pour poursuivre sa carrière. Et elle a réalisé des bas-reliefs et des bustes. Alors d'autres Américaines leur emboîtent le pas. Qu'elles se forment ou se retrouvent ou non à Rome. Alors j'ai rencontré une Américaine d'origine allemande puisqu'elle est née en Prusse en 1833. Il s'agit d'Elisabeth Ney. Alors elle avait étudié la sculpture à l'Académie des Beaux-Arts de Munich. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé également. Elle a vécu en Europe, puis s'est installée aux États-Unis avec son mari, où elle s'est fait une notoriété, ne serait-ce qu'en réalisant les sculptures du Capitole. Alors, sa spécialité, c'était les portraits ou bustes sculptés de politiciens, hommes influents et célèbres. Or, celles dont je vais parler maintenant sont nées dans la seconde moitié du 19e siècle. Et pour rester un peu en Allemagne avant de repartir aux États-Unis, je vais vous présenter une Allemande, une Prussienne née en 1867, qui est classée dans les expressionnistes, qui est un mouvement qui prend corps en Allemagne suite à un état d'esprit né de malaise, mal-être ou d'insatisfaction, souvent en relation avec des faits sociaux, où est palpable à ces époques ce qui se prépare dans l'avenir, à savoir les guerres, notamment celles qui ont éclaté au début et au milieu du XXe siècle. Alors si vous m'avez écouté, vous vous souviendrez que j'avais abordé ce mouvement dans les premières émissions, celles qui étaient destinées à vous familiariser avec l'art, notamment celui du XXe siècle. Alors il est vrai que Kate Kollwitz, puisque c'est le nom de cette artiste, se distingue par sa perméabilité aux problèmes sociaux, aux difficultés qui frappaient les classes défavorisées. Elle s'attaque même à la politique en affichant ses idées socialistes. Et d'un point de vue artistique, elle a d'abord étudié la gravure, puis ensuite la peinture, s'est immergée dans les milieux artistiques de l'époque. Elle subit d'ailleurs l'influence d'un graveur symboliste, Max Klinger, avec lequel elle prouve, au travers de ses réalisations artistiques, son adhésion à son idée que la gravure reste d'une plus grande efficacité de la peinture que la peinture lorsqu'il s'agit de mettre en évidence les problèmes sociaux. Alors, ses prises de position lui valent d'être persécutée par la Gestapo, donc là nous sommes au XXe siècle. Alors il faut dire qu'elle a été durement éprouvée, ce qui nous permet de comprendre qu'elle s'oppose d'autant plus vigoureusement à des systèmes, et notamment ceux qui finissent par déraper dans la destruction. Et il faut dire, concernant Kate Kollwitz, que son fils a été tué à la guerre 14-18 et son petit-fils à celle de 39-40. Alors, il est certain que ce type d'expérience vous change une femme, ou un homme d'ailleurs, il vous transforme, en tout cas pour la vie qui vous reste. Alors je vais encore vous faire écouter une compositrice allemande. Elle est née au début du 19e siècle et n'est autre que la sœur du compositeur Felix Mendelssohn. Il s'agit donc de Fanny Mendelssohn, qui, bien qu'ayant reçu la même formation musicale que son frère, et malgré qu'elle ait démontré de belles dispositions pour la musique et pour la composition notamment, il est dit d'ailleurs qu'elle était plus douée que lui, et bien malgré son talent et son amour de la musique, son père lui aurait bien fait comprendre, déjà toute jeune, que si pour Félix la musique pourrait devenir un métier, il n'en était pas du tout question pour elle, parce qu'une femme se devait à son ménage, à son foyer, aussi la musique ne devrait rester qu'un passe-temps. Alors, le frère en remit une couche, hein, si je puis m'exprimer ainsi, de manière à ce que ce soit bien clair, puisqu'il s'est opposé, comme le père, à ce que Fanny édite ses compositions, ce qui ne l'a pas empêché d'écrire pas moins de 500 compositions. Et quelques-unes ont d'ailleurs été même attribuées à Félix. Alors, qu'a-t-elle composé ? Eh bien, de la musique de chambre, des pièces pour piano, des lieder, des cantates, des oratorios. Malgré sa mise à l'écart, elle a fréquenté les milieux musicaux, s'est produite au piano et a soutenu la carrière de son frère, dont elle est restée proche malgré tout, lui prodiguant conseils lorsqu'il en avait besoin. Et c'est son mari, un peintre de cour nommé Wilhelm Hensel, qui a poussé sa femme à éditer sa musique malgré les oppositions de la famille. Alors à côté de cela, elle recevait les encouragements d'autres musiciens qui disaient d'elle que c'était une grande musicienne et une excellente pianiste. Enfin, elle s'est résolue à éditer et s'est ainsi opposée à son frère. Mais malheureusement pour elle, elle est décédée brusquement un an plus tard d'une attaque. Et elle n'avait que 42 ans. Et c'est son mari qui a poursuivi la publication de ses œuvres. Alors nous allons nous faire une petite idée de son travail. Aussi j'ai le plaisir de vous faire écouter une sonate pour piano, la sonate G mineur Allegro molto agitato, composée par Fanny Mendelssohn. Thank you. J'espère que cette musique romantique vous a séduite. Revenons aux États-Unis avec encore l'une de nos femmes sculpteurs ou sculptrices. J'ai rencontré donc Bessie Potter Vonnoh, née en 1872. Alors, ces femmes sont maintenant nées dans la seconde moitié du 19e siècle. Bessie Potter Vonnoh a étudié à la School of Art Institute de Chicago. Elle a été formée par le sculpteur américain Laura Taft. Elle commencera par réaliser des petits portraits en plâtre de ses amis, ce qui lui permettra de financer son voyage en Europe, où elle y subira l'influence de Rodin. Elle rencontrera le succès surtout avec une pièce intitulée Young Mother, jeune mère, qui représente une jeune femme avec son bébé. Et d'ailleurs, son œuvre tourne autour de représentations de femmes, d'enfants. Quoi qu'il en soit, elle progressera sans cesse, remportera de nombreux prix, recevra des commandes publiques, comme pour la fontaine commémorative Burnett, située à Central Park de New York, ou le portrait de l'homme politique James Sherman, placé au Capitole des États-Unis. Alors, l'une d'elles semble également assez remarquable, car elle commence sa vie active à 14 ans en travaillant dans un magasin de Chicago. Il s'agit d'Evelyn Beatrice Longman. Elle reçoit la révélation de sa vocation à 19 ans en se promenant dans l'exposition universelle colombienne de 1893. Elle met alors tout en œuvre pour se rapprocher de cette discipline en prenant des cours de dessin, d'anatomie, de sculpture à la School of Art Institute de Chicago, où elle obtiendra son diplôme au bout de 2 ans, au lieu de 4 comme c'était programmé. Elle progressera ensuite rapidement en devenant notamment l'assistante de sculpteurs reconnus comme Daniel Chester French, et pour lui, elle participera à la réalisation d'un mémorial dédié au président Lincoln de Washington. Et elle laissera elle-même quelques œuvres mémorables à la postérité sous forme de monuments, notamment à la gloire des États-Unis et des allégories entre autres. Alors, je citerai par exemple le Spanish American War Memorial de Hartford dans le Connecticut, où son génie de l'électricité, une statue monumentale pour l'un des plus grands fournisseurs en téléphonie des États-Unis. Et Evelyn Beatrice Longman fut la première femme sculpteur à être élue membre de l'Académie nationale de design. Alors, je trouve que ces Américaines disposent d'une liberté d'expression assez incroyable. Bon, est-ce le fait de vivre dans le Nouveau Monde, les États-Unis ? En tout cas, bon nombre de réalisations importantes et en vue sont réalisées par des femmes, même s'il nous arrive de passer à côté sans supposer une seule minute que ce type de réalisation imposante soit l'œuvre d'une femme. Donc, peut-être que si nous nous intéressions plus aux auteurs, sans doute aurais-je évité les réflexions masculines comme quoi les femmes artistes n'existent pas ou ne produisent rien en œuvre d'art conséquent. Et je me rappelle les pupilles dilatées fixées sur moi dans mon atelier comme si j'étais un spécimen tombé de la stratosphère, égaré sur terre, atterri dans ce coin de campagne périgourdine pour produire nombre d'objets plus ou moins insolites. Enfin, au moins ces réflexions m'ont permis au travers de cette série d'émissions qui n'en finit plus sur les femmes artistes de trouver la réponse adaptée et je réhabilite ainsi de mon mieux leur mémoire et témoigne de leur participation active et féconde à nos constructions humaines. Bon, nous aurons l'occasion d'en reparler à la prochaine émission. Car je vois que nous arrivons au bout de celle-ci et nous devons nous quitter. Je continuerai la prochaine fois à vous présenter d'autres femmes artistes. Merci de votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les émissions des animateurs enregistrées en podcast ou en direct sur le site de RLP. Je vous rappelle le site www.radiolibre.com. C'était Christine Darboux à la Voix des Arts sur Radio Libre en Périgord. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.